Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. On est très heureux de vous accompagner encore ce week-end. Bon petit déjeuner, si vous êtes au travail évidemment, bon courage, on est là aussi pour vous soutenir. Les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport dans quelques instants, la une des GG, l'OM premier qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. L'OM également à 5 points du Paris Saint-Germain en Ligue 1. L'OM doit-il commencer à rêver d'un titre? 10h, les GG passent la seconde au Tour des Français à l'Open d'Australie. Il ne reste plus que Caroline Garcia qui joue ce matin son troisième tour. Bonzi et Humbert ont été balayés, éliminés cette nuit. Faut-il foutre la paix aux Français? Ce sera notre question. 11h, bras de fer des GG, la NBA s'est invitée à Paris cette semaine. Alors pour vous, est-ce que c'était du sport? Mais oui, incroyable, magnifique sur le parquet. Ou alors, non, c'était pas du sport, c'était surtout du business. Les GG vont en débattre. Et puis, écoutez-moi bien. Une nouvelle séquence dans cette émission. Désormais, il y aura le guet-apens. Un débat caché, fantôme, mystère, appelez ça comme vous voulez. Les GG ne savent rien de ce débat. Et pourtant, elles vont devoir tout vous dire. Ce sera un peu plus tard dans cette émission, le guet-apens. Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme Matteo Guendouzi, qui me. Je rate.
Voilà, c'est le bon Dieu qui t'a puni avant même que tu partes.
Avant même que tu partes, on n'était pas en direct.
D'accord.
C'est parti. Allez, pour les grandes gueules du sport. C'est mieux comme ça. Une grande gueule qui, comme Matteo Guendouzi, on se dit tous les week-ends qu'il est parti et pourtant, il est toujours là. Christophe Cessieux, salut Christophe.
T'aimerais bien que je m'en aille. Mais tu n'auras pas ma peau comme ça.
Jamais.
Jamais.
Oh.
Je suis incroyable.
Même contre 15 millions d'euros, tu vas à Aston Villa.
Ça
m'étonne pas. Une grande gueule qui, comme Matteo Guendouzi, est fan du PSG, Stéphane Brun. Salut Stéphane.
Salut JC, salut tout le monde.
Ça va pour Stifou?
Oui, très bien.
C'était bien la NBA à Paris?
Ouais, c'était très sympa.
T'es du sport?
Ah oui, c'est du sport. Hein. Moi j'ai vu des stars sur le parquet.
Tu as vu des athlètes?
J'ai vu des athlètes de très haut niveau. Je me suis régalé comme un match de saison régulière NBA.
Ok, parfait. Ouais. On en parle à 11h en tout cas avec toi. Évidemment, on profite de ta présence et de ce puits de science sur le basket.
Tu n'avais pas de vanne sexuelle sur moi là pour ce matin?
Ouais, c'est bizarre. Ouais.
Mais Matteo Guendouzi est assez sage. J'avais rien. Mais si ça te manque, tu me dis. Hein. Je voulais changer un petit peu.
Bravo.
Une grande gueule qui, comme Matteo Guendouzi, a failli être champion du monde. Denis Charvet, salut Denis.
Ouais, c'est pas passé loin.
Eh non. Pas une finale.
Si, hein. Quand même.
Si, pour toi, c'est passé
le
loin.
Le score était lourd. Non, bah loin après. C'est dur une Coupe du Monde.
Ouais, on rappelle, hein, c'était en 1987.
Ouais. Donc,
voilà.
Je pensais que tu allais aller sur la chevelure, Guendouzi, Denis, non?
Non, parce que tu vas voir. Une grande gueule qui, comme Matteo Guendouzi, a une coupe de cheveux qui fait marrer les gosses. David Douillet, salut David.
Je fais bien pas être sur le plateau, il y a une drôle d'ambiance. Moi. Je sais pas, il y a un truc qui va pas là-bas. Qu'est-ce qui se passe là?
C'est vrai?
Un jour, David...
Je sens qu'il y a de l'arriéré, je sens qu'il y a de l'amertume, je sens... il va falloir un peu de positif ce matin là, c'est pas possible.
J'aimerais
là.
Te voir sur le plateau un jour.
Mais oui, il nous manque là, David. Viens un peu nous voir quand même là.
J'aimerais te voir.
Si ton régime a comment ça fait effet un peu.
Alors la chaise qui est en face de moi, Kelly, me dit Marie, il est plutôt bien chez lui.
David, on est évidemment.
Ben voilà, écoute les chaises. Continue.
De te retrouver, David, dans cette émission des grandes gueules du sport. Il y a un direct toute la matinée, c'est du tennis avec le troisième tour de l'Open d'Australie. Caroline Garcia, c'est la dernière française, dernière tricolore en lice qui va affronter une Allemande, Laura Siegmund. Et puis il y a aussi Novak Djokovic qui va débuter son match. Notre envoyé spécial Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut Eric.
Salut Eric.
Une belle matinée quand même pour nous.
écoute, je sais plus où donner de la tête. Parce que, effectivement, Caroline Garcia a débuté son troisième tour face à l'Allemande Laura Siegemund. Mais j'aurai un œil, évidemment, sur la Rod Laver Arena, puisque ce match entre Djokovic et Dimitrov promet des étincelles. Et puis, on ne sait pas dans quel état se trouve le Serbe. Et puis aussi, Andy Murray. Donc, trois gros matchs à suivre en même temps. Et voilà, ça va être une matinée, enfin, une soirée pour moi fantastique.
Ok, il est strappé, hein, je le vois, Novak Djokovic. Donc, on a tous peur, évidemment.
On tremble. Depuis le début du tournoi.
Oui, mais à chaque fois, on tremble, carrière, puis en fait, non, il gagne.
Ouais, mais il s'est pas fait strapper tout le temps non plus, hein, n'exagérez pas sur Djoko quand même. J'ai pas vu de se trapper à tous les tournois.
Donc, non, bien sûr, mais depuis le début du tournoi, voilà, il y a une inquiétude.
On remet en cause sur sa blessure. Moi, je pense qu'il est vraiment blessé.
En 2021, il avait une déchirure de 45 cm aux abdominaux, il a gagné quand même.
Voilà. Incroyable, Novak Djokovic.
Sur homme.
Merci, Eric Salio. On parle à 10h des Français avec toi, notamment Benjamin Bonzi et Hugo Humbert, éliminés cette nuit. Et puis, on suit le match de Caroline Garcia. Allez, c'était hier soir sur RMC.
La une des grandes gueules du sport.
Le ballon pour Hugo Chukwu qui va la perdre, cette balle au bénéfice de Verratu qui accélère. Attention, il peut faire la différence avec la vitesse. Oh, il va très vite. Oh, Verratu, il va trop vite pour Maier. Il va centrer en retrait. Gattuso. Oh, quel but! Quel but des finalistes de la dernière Coupe du Monde. À eux deux, ils font la différence. Et l'Olympique de Marseille qui ouvre le score. Matteo Guendouzi, le coup de sifflet, c'est fini, terminé au Vélodrome, et la qualification de l'Olympique de Marseille face au Stade Rennais. Mais Rennes aura essayé jusqu'au bout du bout. 94e minute, et la tentative de frappe lobée de Rodon et Paul Lopez sauvée par sa transversale. L'OM est en 8e de finale.
C'est une série hallucinante. 8 victoires d'affilée pour l'Olympique de Marseille. La dernière, c'était donc hier, et elle permet aux Marseillais de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France. En Ligue 1, grâce à cette superbe dynamique, les Olympiens sont clairement revenus dans le match. 3e à 2 points de Lens et seulement 5 points du Paris Saint-Germain. La musique qui fout les jetons est cette question. L'OM doit-il commencer à rêver d'un titre ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Bah pourquoi pas ?
Oui ou non ?
Pourquoi pas, j'ai dit. Ah, oh, quel dictateur celui-là.
Stephen Brun.
Oui.
Denis Charvet.
Ah oui.
David Douillet.
Bah oui, mais depuis le début.
Oh là, carrément, beaucoup d'enthousiasme. Ok, bah sans problème. On va écouter juste Valentin Rongier sur cette série, le milieu de terrain de l'OM.
Bien sûr, mais de toute façon, on est compétiteurs, donc on a envie de gagner le plus de matchs possible. Si on peut poursuivre cette série jusqu'à la fin de la saison, bah, ce sera avec grand plaisir. On sait que c'est pas simple, mais non, on se met aucune pression vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai qu'on a envie de gagner tous nos matchs.
Envie de gagner tous nos matchs. Évidemment, si l'OM gagne tous ses matchs, bon, il devrait pas être très loin d'un titre en Coupe de France ou en Ligue 1, voire peut-être les deux. J'ai entendu un oui timide, mais c'est juste parce qu'il est 9h15 du matin. Stephen Brun, non. Pourquoi oui ?
En fait, David a raison, j'ose espérer pour les Marseillais qu'ils n'ont pas attendu la victoire d'hier pour commencer à évoquer et voir un titre arriver au bout de la saison. C'est une équipe qui joue, qui a les meilleurs résultats depuis un mois et demi en Ligue 1, 8 victoires consécutives, c'est une équipe qui a des ambitions, c'est une équipe qui est bien coachée, c'est une équipe qui est au point physiquement. Moi, j'ose espérer que 34 ans après, il y ait la possibilité de mettre un titre, et que ce soit même si c'est une Coupe de France, les supporters ont besoin de ça, les joueurs ont besoin de ça. Peut-être que eux, les dirigeants, préféreraient jouer la Ligue des Champions l'année prochaine plutôt que gagner la Coupe de France. Mais à un moment donné, il faut récompenser les 60 000 spectateurs qui sont là au Vélodrome. Donc il faut concrétiser ça, parce que le bon travail de Longoria depuis 2-3 saisons, le bon travail de, que ça soit Bielsa ou Tudor, Sampaoli pardon, et Tudor. À un moment donné, il faut que dans la vitrine il y ait une coupe, et la coupe elle est là, la Coupe de France. On sait que ça dépend du tirage aussi, qui reste 4 grosses équipes avec Lens, Paris Saint-Germain, Lyon et Lille, que Marseille va plus avoir à jouer qu'un match par semaine, la Coupe de France c'est un match par mois pour le final. Ils ont tout, j'ose espérer qu'ils y pensent fortement. Après, le championnat c'est une autre histoire, ils sont derrière, ils sont chasseurs, mais en Coupe de France j'espère que Tudor et ses garçons pensent au trophée.
Ok, je comprends, ce serait une erreur de ne pas y penser. En tout cas,
non seulement je pense qu'il faut qu'ils y pensent, mais en plus ils sont dans une telle dynamique que franchement par rapport rapport à leurs adversaires. Alors il y a Lens qui est un peu dans la même dynamique, qui gagne tous ses matchs, qui est très proche du Paris Saint-Germain en championnat. Mais voilà, on est à 3 ou 4 équipes qui peuvent peut-être jouer le titre, parce que ça va. En fait, tout va dépendre de ce que va faire le Paris Saint-Germain. Évidemment, si le Paris Saint-Germain retrouve son niveau d'avant la Coupe du Monde, si les trois stars se mettent à jouer ensemble, ils seront intouchables comme d'habitude. Mais si la période actuelle se déroule encore pendant un moment, je pense qu'il y en a d'autres qui peuvent récupérer le morceau. Il faut savoir qu'il y aura un OM-PSG à la fin du mois de février. Marseille est à 5 points du PSG. En cas de victoire à Marseille, et si Marseille continue sur sa lancée, ça va être un OM-PSG de toute beauté. Hein. Ce sera sans doute l'un des plus chauds de ces dernières années. Bon, évidemment, là, on est dans l'expectative, mais pourquoi pas.
Moi, ok,
pourquoi.
Depuis le début de la semaine, j'entends cette petite musique là.
Ah oui, ça t'énerve.
Saint-Germain a perdu 2 matchs. Non, mais ça m'énerve pas du tout. Mais il y a deux semaines, non mais vous inquiétez pas, c'est réglé, c'est pour le PSG. Et puis là, après 2 contre-performances, tout le monde se dit, bah ça y est, Lens et Marseille, ils peuvent jouer. Bah,
ils ont perdu 6 points sur l'OM. Ils ont perdu 6 points sur l'OM en 2 défaites.
Il le dit, hein, c'est pas moi.
J'écoute les débats dans les émissions et je les vois, okay. Et on voit cette petite musique. Ils doivent y penser au titre, David Douillet.
Ouais, bah c'est la compétition qui mérite ça. Si tu t'engages une compète sans penser que t'as la vraie possibilité de la gagner, surtout pour une équipe comme Marseille, c'est même pas la peine d'y aller. Maintenant, attention, parce que ça passe souvent sur le fil du rasoir. Encore hier soir, moi je trouve que même s'il y a une domination, ils sont passés pas loin de la correctionnelle quand même, les copains. J'ai en mémoire une balle qui arrive sur une barre.
Bon. Dans les dernières minutes, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc bon, s'ils veulent continuer et continuer de manière victorieuse, il faut resserrer les rangs et quand même s'y coller fort et être beaucoup plus en pression, beaucoup plus efficace, beaucoup plus organisé. Ils sont loin d'être sur de grands matchs. Voilà, c'est des petits matchs, ça passe ric-rac. Il faut sortir la grande classe pour gagner une Coupe de France comme celle-là, surtout avec le PSG.
Ok, personne ne me dit c'est trop tôt, Denis Charvet, ça m'étonne.
C'est trop tôt pour se réveiller. Non, oui et non. Je pense que le visage de Marseille a changé depuis un mois et demi, surtout. C'est que... En début de saison, c'était un peu chaotique. C'était pas le grand Marseille. Il y a eu des matchs pénibles, des matchs perdus à domicile contre Ajaccio, je crois bien, si je me trompe pas. Je pense que le Tudor a fait du très bon travail et qu'aujourd'hui, on voit Marseille avec un état d'esprit différent. Hier soir, même si c'était compliqué de l'emporter, c'est un match de coupe, David, et c'est jamais évident de l'emporter à domicile face à des Rennais qui étaient venus avec de l'ambition. Et au bout du compte, ils gagnent. Pour moi, ce match est très significatif. Hier soir, cette victoire est très significative.
Ouais, mais ça aurait pu basculer, tu vois.
Oui, mais basculer, mais à l'arrivée, ils gagnent. Et comme le dit très bien Christophe, ils sont sur une telle dynamique aujourd'hui que ben, tout pour leur être permis, parce que ce qui se dégage de l'équipe marseillaise hier soir, c'est cet état d'esprit. C'était cet esprit de cohésion, de corps qui n'avait peut-être pas avant et qui aujourd'hui fait la différence. Je pense que on parlait souvent de Guendouzi, mais il n'y a pas que Guendouzi aujourd'hui. Il y a un Verretou qui s'est mis au niveau. Il y a Malinowski qui est arrivé et qui fait du bien aussi. Donc c'est un tout, mais cette équipe marseillaise, moi, elle me surprend énormément.
Question posée juste avant le match face à Rennes à Igor Tudor. Le podium ou le titre en Coupe de France? On choisit quoi à la fin de la saison, Igor Tudor?
C'est une question difficile, je n'y pense pas. Je me concentre sur les matchs, je ne regarde jamais le classement. Vous pouvez penser que c'est un mensonge, mais ça ne m'intéresse pas. Si je devais répondre, je dirais les deux, parce que les deux sont importants. Être sur le podium, ça signifierait qu'on aille en Ligue des Champions, et ce serait bien pour la croissance du club. Mais amener un trophée pour les Marseillais, qui l'attendent depuis longtemps, c'est aussi très important.
Steve, il faut choisir ou pas pour l'OM?
En fait, c'est deux visions différentes. Il y a la vision de Pablo Longoria, de McCourt, qui pour eux, c'est essentiel d'aller en Ligue des Champions parce que financièrement, ça rapporte des sous. Et puis tu restes dans le haut du tableau, puis tu fais venir des meilleurs joueurs et tu progresses. Après, moi, j'ai été joueur et Tudor, lui, je pense qu'il a envie de gagner un titre. Si c'est la Coupe de France, c'est très bien la Coupe de France. Ça récompense les joueurs, ça récompense les supporters, ça récompense le travail d'Igor Tudor. Donc choisir, non, parce que là, ils sont pas dans l'optique de choisir parce qu'ils sont en course pour les deux.
Ah oui,
et puis la Coupe de France.
Choisir.
Et la Coupe de France, 3, c'est une compétition parallèle. Il y a un match en février, il y a un match au mois de mars, et il y a un match en avril. Oui,
c'est, donc, ça, le pire, très bien jouer les deux en même temps. Le demande pas autant d'efforts que de jouer la Ligue des Champions et le championnat en même temps. Tu vois, la Coupe de France, c'est un match par mois, c'est jusqu'à la finale.
Donc, ouais, mais il faut s'inscrire dans une dynamique.
Oui, mais.
Oui, David.
Il faut s'inscrire dans une dynamique de match. Peu importe les championnats, c'est une dynamique de une mécanique de jeu avec des joueurs qui se trouvent, des joueurs qui marquent, etc. Et il faut rester dans cette dynamique-là, quels que soient les matchs, quels que soient les adversaires. Et c'est la dynamique qui est la plus importante.
Oui, mais, la dynamique est
exceptionnelle. Depuis trois ans, on voyait Marseille qui gagnait, qui perdait, qui avait une inconstance totale. Aujourd'hui, c'est une constance qui construisent ces titres-là. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de calcul à faire. C'est ni la Exactement. Coupe ni le championnat. Mais quand on les voit évoluer aujourd'hui, tu sens une équipe qui est plus la même, avec un gros effectif. Et si on peut faire un parallèle avec l'équipe de Lyon, qui a un très bel effectif, ben voilà, il y a un écart vraisemblable.
Et puis la bonne nouvelle, problème, c'est qu'il n'y a pas de drama. Souvent dans la saison, le drama, il s'est passé au mois d'août. Au mois d'août avec l'arrivée de Tudor, il y a eu des clashs parce que bon, les mecs disent, oh putain, on travaille beaucoup. Donc là, il n'y a pas de drama. Le seul vrai drama, ça sera à la fin du mercato si jamais Guendouzi et que l'OM doit céder aux appels financiers de la première ligue.
L'OM peut se mettre le feu, c'est ça, avec
l'OM mercato. Peut se mettre le feu, ouais. Parce qu'on voit que Guendouzi, c'est peut-être pas pour moi c'est le joueur capital de cette équipe, par la grinta, par l'envie qui met sur le terrain, par ses courses, donc il est important. Tu perds Guendouzi, peut-être que tu mets un frein aux ambitions de la saison. Maintenant, on n'est pas au sein de l'OM. On connaît pas les enjeux financiers aussi. Si jamais une offre à 30, 40, 45 millions, moi, si j'étais dirigeant et que je vois 45 millions, peut-être que Guendouzi, je la mets à la gare, je sais pas.
C'est pas sûr, le calcul est non, parce que si tu veux aller chercher une place de deuxième ou troisième, t'as besoin de Guendouzi.
Bah, je suis désolé. Guendouzi 45,
c'est combien la qualification en Champions League? C'est combien? Ça te rapporte combien? 15, 20? Oui, ça me rapporte beaucoup. Le deuxième, troisième place.
Bien sûr.
Donc il y a un calcul à faire quand même au niveau des enjeux financiers qui est important.
Oui, mais il y a hypothétique et là,
D'accord, mais comme dit Stephen, t'enlèves Guendouzi, je suis pas sûr que ce soit la même équipe, Marseille.
Ok, les copains, on reparlera en tout cas l'Olympique de Marseille. Si vous voulez en reparler, n'hésitez pas, supporters marseillais, à composer le 32-16, si vous aussi, vous commencez à rêver d'un titre. On retourne en Australie pour cet Open d'Australie avec Eric Salio, Caroline Garcia sur le court, Novak Djokovic également, Eric.
Ouais, un quart d'heure de jeu sur la Kia Arena pour Caroline Garcia. Et attention, l'Allemande Sigmund mène 2-1. Et elle se procure la première balle de break de cette partie avec une Lyonnaise un petit peu tendue, qui est strappée aussi en haut des cuisses, Stephen, je sais pas si tu as noté. Et ça, j'avoue que c'est une mauvaise surprise pour les observateurs. Donc début de match difficile pour Caroline Garcia, on va voir comment elle va négocier cette balle de break. Voilà, service gagnant, donc voilà, on respire. 2-1, Sigmund, et sur la Rod Laver Arena, break d'entrée pour Novak Djokovic face à Dimitrov. Quand t'as pas Tiberet, il a pris déjà 3 jeux dans la figure. 3-0 pour Bautista Agut. Andy Murray qui a joué 10h34 lors de ses deux premiers matchs. Évidemment, vous vous souvenez tous qu'il a fini à 4h du mat son match contre Kokkinakis. En termes de récup, c'est pas l'idéal.
Ouais, il était pas très content d'ailleurs de terminer à cette heure-là.
Ça peut se comprendre.
Pour qu'on regarde ça, c'est pas tout à fait un strap, c'est une espèce de K-tape qui est censé détendre les muscles. C'est pas un vrai gros strap à l'élasto Voilà, c'est un petit point médical, Eric.
Vous êtes kiné aussi, Stephen ?
Je me suis fait soigner toute ma carrière.
Oui, donc vous savez de quoi vous parlez, évidemment. C'est important d'avoir une expertise.
Je suis masseur,
et pas maçon, rien à voir, évidemment. 9h25, on se retrouve dans quelques instants, la punchline des GG. On va vous dire pourquoi cette descente de Kitzbühel, c'est aujourd'hui, fait si peur. Il s'est passé des choses incroyables sur la Strafe. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h29 de retour sur RMC, les grandes gueules du sport. On est très heureux d'être avec vous. C'est votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi, toujours avec Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet, David Douillet. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG, des informations à vous donner, croustillantes, c'est vrai. Et puis celle-ci, la révolution dans l'arbitrage français. On s'en fout, pas. Vous me direz ça dans quelques instants. L'Open d'Australie avec Caroline Garcia pour son troisième tour. Le premier set, ça se passe mal, Eric Salio.
Ouais, très mal. 4 jeux à 1 pour Laura Siegemund, hein, 34 ans, qui est 158e mondial. Et pour l'instant, il pose de gros problèmes à Caroline Garcia. Vous en doutez, avec ce score qui est, ma foi, assez étonnant. C'est une fille qui est très agressive, qui vient au filet. Et Caro, pour l'instant, n'a pas pu installer son jeu. Sur la Rod Laver Arena, 2 jeux à 0 pour Novak Djokovic. Dimitrov a une balle pour ouvrir son compteur. Et Papi Murray va un peu mieux. Il est mené 3 jeux à 1 par Roberto Bautista Agut.
Il fait même les accents, Eric Salio. Séjour de descente à Kitzbühel. Les skieurs s'offrent une double ration de la Strafe aujourd'hui à 11h30 après la descente d'hier. Kitzbühel, une descente, vous le savez, légendaire, un mythe qui perdure depuis des années. Le détenteur du nombre de victoires, Didier Kuch, le Suisse aujourd'hui retraité, a raconté sa première Strafe cette semaine. C'est la punchline des GG rapportée par notre copine Siri, ou la rapporteuse.
RMC, la punchline GG.
En 1996, j'ai eu peur. J'étais terrifié. 3 des 5 meilleurs skieurs du circuit venaient d'être envoyés à l'hôpital. Je me suis dit, comment veux-tu t'en sortir si les meilleurs échouent ? Il s'en est fallu de peu que j'entre dans le club de ceux qui redescendent en télécabine. Quand je suis arrivé en bas pour la première fois, j'ai levé les bras comme si j'avais gagné la course.
Didier Kuch sur la peur de cette descente de Kitzbühel. La question, mais GG la peur.
Il avait perdu la flamme, Kuch.
Non. Elle est pas mal, celle-là.
Je garde, évidemment. La peur, est-ce un frein ou un moteur, mais GG? Christophe Cessieux.
Frein.
David Douillet.
Un moteur.
Stéphane Brun.
Un moteur.
Denis Charvet.
Un moteur.
Trois moteurs, un frein. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste ski, Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Combien de temps vous allez encore nous vendre la peur avec Kitzbühel? Salut Jean-Christophe.
Salut Christophe, salut Denis, salut Stéphane.
Je vends la peur. Bah justement, pourquoi cette descente de Kitzbühel fait-elle aussi peur?
Alors, il y a un proverbe popularisé par le descendeur français Johan Claret qui dit que Kitzbühel, c'est 30 secondes de chute libre au départ et 30 secondes de chute libre à l'arrivée. Reste une minute au milieu, pas forcément non plus de tout repos. La Strafe, traduisez le ruban en allemand, est l'une des pistes les plus vertigineuses du circuit. Pas la plus rapide, mais certainement la plus exigeante techniquement, avec la Stelvio de Bormio, avec qui elle se dispute d'ailleurs régulièrement le titre de descente la plus dangereuse de la Coupe du Monde. Les chutes font partie de l'histoire de la Strafe. Les skieurs le savent, mais n'y sont jamais vraiment préparés. Si tu es au départ, la Strafe t'aboie dessus comme un méchant chien, et si tu n'aboies pas en retour, elle te mord, avait d'ailleurs déclaré l'Autrichien Andreas Schifferer quelques mois après avoir violemment percuté la neige et passé 3 jours dans le coma suite à l'édition 1996. Autre miraculé, le Suisse Daniel Albrecht, victime d'une effroyable chute à l'entraînement sur le saut final en 2009. Traumatisme crânien, traumatisme cérébral, hémorragie cérébrale, contusion pulmonaire. Il passe alors près d'un mois dans le coma, se réveille, puis revient à la compétition 9 mois plus tard. Mais l'histoire se termine parfois moins bien. Et si aucun skieur n'a directement laissé la peau sur la Strafe, certains y ont définitivement enterré leur carrière, comme Hans Gruber, par exemple, dont la chute en 2011 avait horrifié le petit monde du ski, percutant de plein fouet la piste avec sa tête après un saut d'une trentaine de mètres sur le début du parcours, inconscient, presque laissé pour mort. Il sera opéré pendant plus de 5 heures pour des blessures à la tête, aux côtes et aux poumons. Il ne remontera jamais sur des skis en compétition. Voilà pourquoi Kitzbühel fait peur. Voilà pourquoi arriver en bas de la Strafe au bout de quasiment 2 minutes d'effort est toujours un moment d'intense soulagement.
Merci beaucoup Arnaud Souk. Tu restes avec nous évidemment pour ce débat sur la peur, frein ou moteur. Oui,
Christophe. Alors d'ajouter juste cette petite phrase légendaire qui veut que lorsqu'un jeune skieur arrive à Kitzbühel, ses coéquipiers lui disent, c'est pas la peine de défaire ta valise, on te l'amènera directement à l'hôpital. Hein, donc comme ça, ça vous met dans l'ambiance directement.
On plante le décor, exactement. Frein ou moteur? C'est un moteur pour toi, Denis Charvet?
Écoute, c'est un moteur, c'est une réflexion que j'ai eue souvent par rapport à la peur, parce que j'ai fait un sport de combat, comme tu le sais, un sport dangereux, même très dangereux. Et finalement, je pense que déjà, par ton éducation, quand tu démarres très jeune, comme ça, la peur, tu la canalises. Enfin, elle fait partie de toi, en fait. Parce que sinon, tu rentrais pas sur un terrain de rugby. C'est ma réflexion que je me suis faite. Après, tu dois l'apprivoiser, quelque part, parce que, on va pas se mentir, la peur, on a tous peur. Il y a différentes peurs, la peur de gagner, la peur de se faire mal, la peur de se tuer, la peur de, donc il y a plusieurs peurs en nous, mais c'est vrai que pour moi, je me suis posé la question après ma carrière, et même maintenant quand je vois les joueurs jouer, je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai pu faire ce sport-là. Donc si tu veux, j'ai traversé une carrière avec une peur qui était intégrée, quoi. je pense. Donc si tu veux, mais pour l'intégrer et l'apprivoiser, il faut vivre avec. Donc je pense quand même qu'il y a, quand même inconsciemment un fait qui fait que ben tu y réfléchis et que tu sais pas, tu la mets dans un coin de toi et puis tu y vas. Parce que sinon je serais jamais rentré sur un terrain. Donc après, la seule peur que j'ai eue véritablement consciemment, on va dire, c'est la peur de mal faire. Celle-là, ça m'a inhibé, ça m'a empêché d'être meilleur. Mais le reste.
Mais sur la dangerosité de ton sport, tu mettais ça de côté.
Et pourtant, crois-moi que c'était quand même dangereux, j'ai vu des choses très dangereuses sur un terrain.
Exactement. Surtout à l'époque, on le rappelle, où même si c'est encore dangereux aujourd'hui, très dangereux de le rugby.
Ah, est-ce que c'est pas plus dangereux d'ailleurs aujourd'hui que ça l'était à l'époque?
Moi, je pense
qu'il y avait. Bon, de temps en temps,
je pense que c'était très, très dangereux.
Mais il y avait peut-être moins de grosses blessures.
Mais alors, je vais vous dire par un truc très simple, par rapport au chaos, par exemple. Au traumatisme. Il y en avait plus avant qu'aujourd'hui. Donc, ah ouais. Donc je veux dire par là, le problème c'est que celui qui fait un KO à l'entraînement, il joue le dimanche, celui qui fait un KO le dimanche, il s'entraîne le lundi. Non mais nous, il n'y avait pas la prévention, il n'y avait pas cette sécurité, il n'y avait pas tout ça n'était pas pris en compte. Je peux te dire, des joueurs avec qui j'ai joué qui ont fait beaucoup de KO, il y en a. Hein.
Ok, c'est un frein pour toi, Christophe.
Alors, je pense que c'est un frein, selon certaines conditions, parce qu'évidemment, ça peut être un moteur, et vous qui avez tous été des athlètes de haut niveau, vous dites que ça a été un moteur pour vous. Mais dans d'autres cas, ça a été aussi un frein, c'est un frein lorsqu'il y a eu la douleur avec. Et on parlait tu parlais de Arnaud de plusieurs skieurs. Moi, je vais vous parler du cas de Valentin Giromoine, qui est un coureur de l'équipe de France de descente, qui était l'un des tout meilleurs et qui un jour, après avoir fait justement un podium à Kitzbühel, la semaine d'après, se blesse gravement à Garmisch. C'était en 2017, luxation des deux genoux, qui avait entraîné une greffe de tendon qui avait été prélevée sur un donneur. Il a galéré pendant des mois pour revenir. Il est revenu niveau, mais il a connu la douleur, la très grosse douleur. Et lorsqu'il s'est retrouvé 2 ans plus tard au départ de la Strafe, il était dans la cabane de départ, il a dit non.
Il n'est pas parti ?
Il est reparti en télécabine, il est redescendu. Incroyable. Parce que la douleur était... Le souvenir de sa douleur était dans sa tête.
Mais là, tu parles d'un extrême.
Et je te parle d'un extrême. Je vais te donner un autre exemple. Dimitri Zarzewski, joueur de rugby, talonneur de profession, qui lui aussi a été victime de problèmes au cervical, qui s'est fait opérer des cervicales et qui un jour, après cette opération, se retrouve sur un terrain, rentre en mêlée et sent à nouveau la douleur. Et il s'est dit, mais non, c'est mon dernier match, j'arrête là, c'est pas possible, je ne veux pas risquer de me retrouver en petite chaise. Donc tu vois, la peur d'avoir mal, la peur de la grosse blessure, quand tu l'as déjà connue, je pense que là, c'est un frein. Alors évidemment, tout le monde n'a pas connu la douleur, mais je pense que vous l'avez tous connu à un degré
mais là, plus ou moins élevé. C'est la grosse blessure.
Et voilà, mais moi je te dis que dans ces cas-là, quand il y a eu la douleur, le souvenir de la douleur, pour moi c'est un frein.
Après,
derrière.
Regarde Hermann Mayer, par exemple, à l'époque, pour reprendre des skieurs, qui avait été blessé très gravement à plusieurs reprises, d'ailleurs, pas que il n'y avait pas eu que son accident de moto, il était revenu à chaque fois, il avait gagné, il avait.
Oui, mais quand il chute à Nagano, par exemple, cette chute qui est sans doute la plus spectaculaire de l'histoire du ski, effectivement, tout le monde se dit, comment il va faire? Il se relève, mais il s'est pas fait mal ce jour-là. Mais il s'est fait mal dans d'autres courses. Mais voilà, je pense que quand t'as connu une grosse douleur et que t'as vraiment la trouille de devoir finir en petite chaise roulante derrière, tu calmes le jeu.
Je pense qu'il faut faire le distinguo sur les sports dangereux type F1, descente de ski, cyclisme ou les sports extrêmes, où là je pense que la peur c'est un frein au bon résultat, parce que si t'as peur tu vas freiner, tu vas pas prendre le risque nécessaire, et là je te parle de la relation entre performance gagnée et la peur. Si t'as peur, tu seras pas premier, parce que forcément tu vas être un petit peu sur le reculoir et tu vas pas faire péter le chrono adéquat. Après, sur d'autres sports comme le mien qui était le basket, la peur elle est pas dangereuse pour soi, elle est pas dangereuse pour son intégrité physique. Et là, on bascule de la peur au stress, le stress de pas réussir, le stress de se louper. Et pour moi, ça a toujours été un moteur, parce que ce stress d'avant match et pour d'autres aussi, c'est surtout un bon signe car elle te met en alerte en fait. Ce stress-là te met en alerte sur les bonnes choses à faire, sur les consignes à respecter, sur les systèmes à exécuter, et moi si j'avais pas peur, je savais que j'allais faire un mauvais match.
T'as pas empêché parfois de passer à côté aussi?
Non, parce que c'était du stress qui excitant, et je sais qu'après c'est du cas par cas. Il y a des gens qui ce stress et cette peur annihilent toute leur performance. Il y a des mecs qui sont performants que sous la pression de la compétition, et il y en a d'autres qui un état d'anxiété va faire perdre tous ses moyens. Donc après je pense qu'on est sur du cas par cas. Il faut faire le distinguo entre les sports dangereux et les sports, enfin les sports co, où il n'y a pas de danger pour soi, pour son intégrité physique.
Notre double champion olympique, David Douillet, sur la peur.
Moi, je ferai un distinguo entre je pense qu'il y a la peur plaisir et la peur qui peut devenir un enfer. Et je crois que tout le monde l'a un peu décrit d'une manière ou d'une autre. Et tant qu'on arrive à transformer cette peur même de l'intégrité physique, cette peur de la compétition, cette peur de l'événement, cette peur de l'adversaire aussi, en plaisir, parce que on se dit qu'est-ce que je vais rassembler comme qualité pour outrepasser cette peur, et quand j'y arrive, et ben c'est déjà une victoire, peut-être dans la victoire, et ça vous tient et ça reste intéressant. Le jour où il y a un grain de sable, et quelquefois c'est un gros accident, etc., et que cette peur là se transforme en une crainte, un enfer, là c'est plus possible. Voilà. Et ça, c'est propre à chacun. Moi, j'ai souvenir, et je vais sortir un petit peu du cadre du sport pour aller dans l'extrême. J'ai quelques amis qui ont officié ou qui officient encore dans des groupes d'élite d'intervention. Certains, en ayant pris une balle, n'ont plus été capables d'aller en intervention, et d'autres le sont toujours encore capables. Donc ça, c'est vraiment le profil psychologique de l'individu qui est capable d'outrepasser son soi-même pour aller dans ce qu'il aime faire quelque part, hein, dans sa passion. Voilà, c'est propre à chacun. Maintenant, je pense que en majorité, la grande majorité des athlètes, ce sont des individus qui ont intégré cette peur, qui l'outrepassent et qui en font déjà une première victoire. Et ça a du bon.
Les copains, on va poursuivre ce débat dans quelques instants, mais priorité au direct, l'Open d'Australie avec Caroline Garcia. Vous le savez certainement si vous êtes avec nous depuis 9h du matin, qui ne va pas bien dans ce troisième tour. Le premier set est quasiment perdu. On en est où, Eric Salio?
Oui, 5 jeux à 1 pour Laura Siegemund face à Caroline Garcia qui vraiment n'arrive pas à installer son jeu. Elle est très perturbée par cette Allemande de 34 ans qui sait brouiller les pistes. Alors on me dit qu'il y a beaucoup de vent aussi sur la Kia Arena, mais bon, ça c'est pas une excuse. Il va falloir qu'elle tire un trait sur ce premier set parce que là il est quasiment perdu. Il y a 5-1, 40-15. Je trouve qu'aussi elle a des petites poches sous les yeux. Je sais pas s'il a passé une sale nuit, mais en tout cas c'est pas la fille resplendissante qu'on avait l'habitude de voir depuis le début de la quinzaine. Donc 5-1, 40-15 pour Laura Siegemund, balle de 7 à venir pour cette Allemande de 34 ans, je le rappelle, 158e mondiale. Pour l'instant, oui, c'est le coup d'assommoir. Mais bon, il n'y a qu'un set de fait, hein. Elle va réagir, je suis convaincu.
Ouais, bah on reste avec toi hein, quand même pour cette balle de 7, ouais. Mon cher Eric Salio. Bon, Siegemund face à Caroline Garcia.
Laura Siegemund qui a une très colorée, hein, sa tenue avec une petite jupette jaune. Caro qui agresse au deuxième service et c'est gagnant. Donc 40-30. Laura Siegemund donc qui n'arrive pas à conclure sur cette première balle de 7. Mais elle a une deuxième à venir alors que sur le central, Novak Djokovic a toujours son pack d'avance. 3 jeux à 2 et Murray a déjà pris 6-1. 6-1, je crois qu'il a absolument pas récupéré de son incroyable match face à Kokkinakis, achevé à 4h du match. J'étais, c'était un moment magique, mais là, effectivement.
T'as mieux récupéré avec lui, quand même.
Hein. Oui, j'ai un peu mieux récupéré avec lui, je vous le cache pas. Alors que là, vraiment, il est un petit peu à l'heure. Et puis en plus, Bautista Agut, c'est pas le mec qu'il faut rencontrer après un marathon de 5 heures. Donc, deuxième balle de 7 à venir pour Laura Siegemund face à Caroline Garcia, l'une des favorites de ce tournoi. Voilà, c'est fait. Service gagnant. 6 jeux à 1, c'est la tuile.
Exactement, et on suivra le deuxième set avec toi, mon cher Eric. Qu'est-ce que c'est?
C'est un téléphone.
C'est le téléphone rouge des GG. Une star peut nous appeler, on décroche.
Rouge ou rose?
C'est rouge, je pense. Hein. Allô, c'est qui?
Allô, bonjour, c'est Antoine Deneria, champion olympique de descente.
Salut Antoine
Deneria, merci d'être avec nous, oui, champion olympique de descente en 2006. Antoine, j'imagine que tu as envie de réagir à notre débat sur la peur. À un moment donné de ta carrière, toi, ça a pu être un frein, non, si je ne me trompe pas?
Ouais, disons, quand on est descendeur, il y a forcément toujours plus ou moins une boule au ventre. Il y a des pistes plus ou moins faciles, plus ou moins impressionnantes et on fait avec, ça c'est sûr. Et puis c'est vrai qu'à la fin de ma carrière, elle est devenue un peu trop forte. Donc j'ai décidé d'arrêter un petit peu à cause de ça, ouais.
Antoine, tu disais voilà, il y a des pistes très très difficiles, des pistes qui font peur. Il y a aussi une espèce de petite bataille. C'est Johan Clarey qui avait révélé ça une année quand il avait dit avec d'autres skieurs par exemple qu'ils avaient trouvé que Bormio était plus dur que l'Ashdrive sur je sais plus quel hiver. Je crois que c'était l'hiver 2012. Derrière, Kitzbühel avait encore plus arrosé la piste, encore plus rendu l'Ashdrive dangereuse. Il y a cette espèce de petite bataille, notamment entre Bormio et Kitzbühel pour la descente la plus dangereuse. Est-ce que toi aussi t'avais vécu ça et est-ce que tu confirmes ce sentiment?
Ouais, bah moi j'ai toujours trouvé Bormio plus difficile que Kitzbühel, surtout au niveau physique, parce que c'est une piste où il y a pas de répit, on se repose pas une seconde, c'est quasiment tout à l'ombre et ça tape énormément. Alors que Kitzbühel, bah il y a le sommet, enfin le Steilhang et puis toute la partie du bas qui est hyper impressionnante, mais la partie du milieu, bah elle est, je dirais qu'elle est entre guillemets un peu plus cool. Je sais pas si on peut dire ça cool, mais bon, on peut un peu souffler entre le Steilhang et la partie finale et le Grand Dévers. Après une compétition entre les pistes, je pense pas, mais c'est vrai qu'il y a une période où on avait tendance à énormément arroser les pistes. C'était de la glace, c'était des patinoires en pente. Et bon, là, c'est vrai que c'était des fois très impressionnant, ouais.
Antoine Denerrière, champion olympique de descente, nous a appelé pour nous parler de cette descente de Kitzbühel qui aura lieu à 11h30. Vous suivrez ça évidemment dans les grandes gueules du sport et sur RMC. Denis Charvet.
Antoine, je peux te poser ces questions maintenant parce que t'as arrêté. Est-ce que t'as pensé à la mort avant une descente?
J'y ai pensé. Après, 3 semaines après les Jeux Olympiques à Turin, là, j'ai pris une énorme gamelle. À Auré en Suède, et ouais, j'ai pris un gros coup sur la tête, et c'est vrai que quand j'ai repris mes esprits, que j'ai compris ce qui m'était arrivé, que j'ai revu la chute, ouais, ça aurait pu être hyper grave. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment, j'étais plus tellement en forme, et j'ai énormément cogité, et je me suis rendu compte que je prenais des risques qui étaient assez forts, ouais.
Quand on demande à un sportif de haut niveau ce que ça fait d'être au départ de cette descente de Kitzbühel, bon, on n'a pas l'impression de s'en rendre compte parce que vous avez l'habitude évidemment. Christophe, toi, tu as un jour été dans le portillon de départ et tu as vu cette descente.
J'ai commenté.
Mais t'as pas descendu,
Non, je l'ai pas descendu. Bah non, tu peux pas la descendre. Déjà, il faut avoir des skis qui sont tellement affûtés que si
c'est
tu
vrai
vas.
Une partie de la piste est fermée aux skieurs toute l'année.
Mais je pense que Antoine va pouvoir nous le décrire mieux que moi parce que lui, il a pris le départ vraiment de cette descente de Kitzbühel. Mais quand t'es dans la cabane de départ, c'est une espèce de truc noir là qui brille parce que c'est de la glace vive et tu sais qu'au bout là-bas 150 mètres plus loin t'as un virage quasiment à angle droit à prendre. Antoine, raconte-nous dans quel état on est quand on est au départ de cette descente de
Kitzbühel. Quelle différence il y a entre Kitzbühel et les autres
et les autres, ouais, finalement.
Kitzbühel, il y a déjà toute une ambiance particulière. C'est la Mecque du ski, c'est l'Autriche. Il y a 50 000 personnes tout autour de la piste, surtout à l'arrivée. Et c'est vrai, quand on est dans le portillon, déjà, moi, j'avais la sensation, quand on rentrait dans cette cabane de départ toute blanche, l'impression de rentrer dans une salle d'opération. C'est assez impressionnant. On fait pas le malin, quoi. Il n'y a pas un bruit, personne parle. Et quand on met les bâtons dans le portillon, c'est vrai que tout de suite, c'est très raide, c'est très gelé, c'est de la glace. Et puis 150-200 mètres plus loin, on voit, c'est déjà hyper raide. On pousse 2-3 fois et au bout de 200 mètres, on est déjà à plus de 100 km/h. Et puis après, il y a le saut de la Mausefallée, la souricière, où on saute 60-80 mètres. Et on va très vite, quoi. Donc c'est vrai qu'on est tout de suite dans le bain, ça tape tout de suite, c'est hyper impressionnant. Et le départ, c'est le couteau entre les dents tout de suite. Donc c'est vrai qu'on est tout de suite dans le vif du sujet, ouais.
Et d'ailleurs, juste pour préciser, cette année, ils ont adouci le saut final, parce que le saut final a souvent fait des dégâts. Je vous parlais de Daniel Albrecht il y a quelques minutes. On peut parler d'Urs Kriegenbull aussi, qui avait subi une chute absolument catastrophique en 2021. Johan Claré aussi, qui était tombé. Bref, cette année, ils l'ont adouci pour éviter. D'ailleurs, on a remarqué que sur le saut final, les skieurs sautaient très très peu, justement. Il y a aussi cette conscience et cette notion de la part des organisateurs d'écouter aussi ce qui se dit du côté des skieurs qui avaient un peu hurlé après l'édition 2021.
Les GG du sport, l'émission de champion olympique avec Antoine Denerrière, avec aussi David Douillet. David, un petit mot rapide pour Antoine.
Moi, je veux saluer sur la reconversion d'Antoine qui fabrique des skis formidables. Voilà, je les ai essayés. Continue.
Il fabrique des skis pour plus de 150 kilos. Il fabrique ça.
Exactement. Dis-moi, Antoine, exactement pour les hommes. Voilà, merci.
Et Antoine, tu sais que je skie toujours avec tes lunettes. Donc, est-ce que tu fabriques encore des lunettes?
Oui, je fais toujours faire des masques, des cases, des accessoires et puis des skis. Je fais des skis pour les hommes, comme dit David, donc il n'y a pas de souci.
Pour les grosses cuisses.
Vous équipez.
Antoine, moi je skie encore avec tes slips. Franchement, c'est
très bonne qualité. Antoine, est-ce que toi, comme David, tu as une piste à ton nom dans une station française? Parce que David, il a quand même une piste à son nom, c'est quand même quelque chose.
Eh ouais.
Whisky bien.
Ah ouais, ouais, je sais, dans les Trois-Vallées, il y a une piste à son nom. Bah, moi, c'est chez moi, à Morillon, ouais, le stade de Slalom a été, c'est le stade Antoine Denaria. Ah
bah voilà, ça, c'est la classe.
Merci, Antoine Denaria, d'avoir été avec nous en direct dans les grandes gueules du sport. Et
merci,
et à bientôt.
Bonne journée.
Salut, plaisir. Salut, Antoine. De te reparler dans les GG, 9h49. On se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup, Arnaud Souk, pour ces précisions sur la descente de Kitzbühel qui aura donc lieu à 11h30. C'est à suivre sur RMC. Dans quelques instants, on s'en fout pas, la révolution de l'arbitrage français. À tout de suite.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h52 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin David Douillet, Christophe Cessieux, Stephen Brun, Denis Charvet. À partir de 10h, l'Open d'Australie. Faut-il foutre la paix aux Français? On se posera cette question et les GG ne sont pas d'accord. Il ne reste plus que Caroline Garcia. Nous sommes le samedi, même pas une semaine de passé. Caroline Garcia qui perd 1-7-0 face à l'Allemande Sigmund. Tout de suite, on s'en fout pas.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est la révolution dans l'arbitrage français. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
David Douillet.
On s'en fout pas.
Stephen Brun.
Oui, ça m'intéresse.
Ça t'intéresse, mon cher Denis.
Oui, beaucoup.
Alors, c'est une véritable révolution qui pourrait s'opérer au sein de l'arbitrage français. Je le disais, guidé désormais par Anthony Gauthier et Stéphane Lannoy, les deux hommes veulent frapper fort. Voici les deux grandes idées sur la table. La sonorisation des arbitres durant toute la rencontre et la possibilité pour les arbitres de s'exprimer face à la presse après les matchs. Une demande va donc être faite en ce sens auprès de la FIFA pour que ce soit autorisé. Christophe.
Je trouve que c'est une très très bonne idée et je vois qu'une fois de plus le foot se met dans les pas du rugby qui a déjà adapté cette sonorisation depuis longtemps et avec très bonheur. Ça a changé complètement les rapports entre les joueurs et les arbitres. Désormais, comme ils se savent écouter, eh bien ils ne sont plus polis, moins véhéments, que ce soit les joueurs ou les arbitres d'ailleurs. Alors concernant la sonorisation durant tout le match, c'est pas encore fait parce que je crois qu'il faut un accord de la FIFA.
Exactement.
En revanche, la France n'a pas besoin de l'accord de la FIFA pour autoriser les arbitres à parler après match. Et là aussi, ça va changer parce que les grandes muettes vont enfin pouvoir s'exprimer après les matchs.
Il y aura du média training, hein, c'est ce qu'on nous dit, ouais. En tout cas.
Bah oui,
ça va calmer.
T'es obligé de former les arbitres.
Ça va calmer Verratti.
Tu penses?
Ah oui, je pense, oui. Eh bien, on va l'entendre. Ah, maintenant, on va savoir ce qu'il dit aux arbitres.
Bah justement, ou alors il va plus le dire.
Et puis
ces images qui étaient pour moi catastrophiques pour le football, ces attroupements autour des arbitres, des joueurs footeux où ils venaient 10, 11 autour de l'arbitre pour mettre une pression. Là, ça va peut-être calmer les ardeurs. Et oui, je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut que les arbitres soient préparés à passer en conférence de presse parce qu'après des polémiques, ça va arriver, des erreurs d'arbitrage. Il faut qu'il y ait du vocabulaire, il faut qu'il y ait des explications. Voilà. Donc je pense que ça va apaiser tout ça. Mais pour autant, je vous le dis tout de suite, c'est pas pour autant qu'il va pas, ça va arrêter.
Non, les polémiques, mais alors, adopter une autre mesure du rugby, c'est-à-dire que quand il y a contestation, eh ben on avance la faute de 10 mètres.
Ouais, voilà. Ça sert à rien au football.
Non mais tu parlais du rugby, mais nous on n'a pas eu besoin des arbitres pour. Comment dire, nous c'est une éducation, nous les arbitres on a toujours respecté les arbitres. Je dis pas ça par rapport faire une comparatif avec le football.
Oui mais là ça peut être bien la seule réticence que j'ai, et je lance David là-dessus, c'est qu'avec la sonorisation des arbitres on va peut-être avoir d'autres polémiques sur justement le langage que l'on a aux arbitres et mais pas le jeu en fait.
Le foot a besoin des polémiques pour vivre de toute façon et c'est
moi ce que j'aime bien
nourrir au quotidien.
Dans cette avancée, parce que c'est une vraie avancée, c'est l'aspect éducatif, c'est-à-dire que les gens vont comprendre. Quelquefois on s'insurge sur une telle ou telle décision, les gens comprennent un peu mieux les logiques.
Tu as raison.
Les logiques des arbitres, les logiques de jeu, etc. Donc moi je trouve que la plus grande des valeurs, c'est la valeur de la compréhension d'un match, du jeu, etc., etc. Et Dieu sait si en rugby c'est compliqué, mais en foot aussi, on verra que quelquefois des actions qui peuvent faire rentrer de la justice, c'est pas forcément le cas à chaque fois. Quoi.
Ouais, après en football, je suis un peu les hors-jeux. Tu vas pas expliquer les hors-jeux, hein. Déjà personne ne les voit, que ce soit ralenti ou.
Après là où Christophe a dit que le foot se rapproche vraiment du rugby, c'est que comme le rugby, ils vont virer leur président aussi au foot.
C'est possible. Pour l'instant, il n'y a qu'une mise en retrait, un statu quo.
Pareil.
Vous entendez cette musique, nouvelle musique dans les grandes gueules du sport.
Ah.
Dans quelques instants. À un moment donné de l'émission, il y aura un débat caché, un débat mystère. Vous n'êtes au courant de rien et pourtant, il va falloir débattre. Restez bien avec nous. On revient dans quelques instants sur RMC. À tout de suite, les grandes gueules du sport.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.